Chapitre 1. Hugo ouvre les yeux et sa conscience émerge avec peine du trou noir où elle s'était engloutie. Il bouge ses jambes dans un réflexe de survie qui le pousse à fuir. L'image nette du camion, avec sa rampe de phare au-dessus de la cabine, se superpose à la réalité de ce qui l'entoure. Il gémit de terreur, roule sur le côté et tente de se relever. En rafale, les visions de cauchemar l'assaillent. La route luisante de pluie, avec la calandre du 30 tonnes venant à sa rencontre. Les bruits éclatent ensemble, stridents et confondus. Freins qui hurlent d'impuissance, klaxons bloqués, vitres brisées, tôles déchirées. Hugo est retombé à plat ventre, le visage dans la boue. Il respire avec difficulté. Il sait que les sons n'existent plus que dans sa mémoire, que l'accident est terminé et qu'il est vivant. Il prend appui sur ses mains et sur ses genoux pour se soulever, dans le sursaut d'une nausée. Il vomit sans douleur, la tête pendant entre les bras. Il n'a aucune force pour lutter contre le vertige qui le plaque au sol. Il subit une interminable sensation d'évanouissement. Happé par une nouvelle syncope, il met plusieurs secondes à surmonter sa défaillance. Quelque chose d'obsédant rampe à l'intérieur de lui-même, affleure, puis se fraye un passage jusqu'à devenir compréhensible. « Isabelle !» Hugo voulait crier, mais il n'a que balbutié. Ce murmure heurte pourtant son esprit avec violence et lui rend sa lucidité. Il se traîne jusqu'au bord du talus et découvre la Porsche en contrebas, déjà attaquée par les flammes. Il accomplit un effort considérable pour se lever, persuadé qu'il n'y parviendra jamais. En état de choc, il ne ressent qu'un total épuisement qui ralentit tous ses gestes. Il enregistre d'un coup que l'épave brûle et qu'une silhouette gesticule au milieu du brasier. Il se met à courir sans l'avoir décidé, mais il ne franchit que quelques mètres avant de tomber. Des mains se sont accrochées à ses jambes. Il se débat, obnubilé par l'urgence, tendu vers Isabelle qui reste prisonnière de l'enfer. Les bras qui le retiennent se sont serrés autour de lui. Des doigts s'enfoncent dans ses cuisses. « Ne bouge pas !» chuchote la voix rauque et sifflante de son père contre son oreille. « Tu ne peux rien pour elle. La voiture va exploser. » Hugo se redresse sur un coude et balance son poing, au jugé. Le coup rend un bruit sourd, mais l'étreinte de Charles ne s'est pas relâchée. « C'est ta fille !» hurle Hugo qui se dégage et se relève. Il fait deux pas, reçoit un choc sur les épaules et se retrouve à terre, suffoquant sous le poids de son père. Il lutte en silence, avec une énergie soudaine qui tourne aussitôt à la violence meurtrière. Les secondes qu'il perd le rendent fou. Il réussit à faire basculer Charles, qui s'accroche à lui et qu'il traîne. Le bruit, la lumière, le souffle de l'explosion les immobilisent net. La carcasse de la Porsche a volé en éclats. Hugo parvint à résister jusqu'à l'enterrement d'Isabelle. Enterrement, c'était beaucoup dire, car il se demanda ce qu'on avait bien pu mettre dans le cercueil de sa sœur. Il résista donc, muré dans un silence hostile dont personne ne sut le tirer. Charles raconta ce qu'il voulut. Il s'en tint d'ailleurs à la vérité, la sienne. Isabelle était morte, mais il avait sauvé Hugo. C'est ce qu'il croyait et ce fut ce qu'il dit. Il n'expliqua pas pourquoi il avait tenu à conduire, mais il précisa qu'il était au volant, son fils à côté de lui et sa fille à l'arrière. Il soutint que le camion avait foncé sur eux. De toute façon, il n'avait pas subi d'alcotest. Oubli ou passe-droit de gendarme complaisant. Hugo savait que son père avait bu ce soir-là. Pas assez pour être ivre, peut-être, mais suffisamment pour vouloir piloter le bolide. Après tout, c'est lui qui l'avait payé, cette Porsche de malheur. Comme c'est lui qui, depuis 4 ans, flattait le penchant d'Hugo pour les voitures. Des mois et des mois de cours sur circuit, avec des professionnels. Mon fils est un vrai champion. Les rallyes et les copains d'Hugo. Des soirées où Charles était comme un poisson dans l'eau. Et le suprême cadeau. Cet engin de mort devant lequel Hugo avait fondu de reconnaissance et de bonheur. 8 cylindres et 32 soupapes. 330 chevaux. Isabelle battait des mains. Dieu, qu'elle admirait son frère. Elle était trop jeune pour savoir que Charles achetait Hugo avec ce cadeau empoisonné et que le frère adorait se laisser acheter. Donnant, donnant. Tu reprends mon affaire et je t'offre tes chimères. Les études, c'est pour amuser la galerie, pour flatter ta mère. L'argent, je sais comment on le fabrique. Je te passerai le flambeau. On ne peut pas le laisser s'éteindre, Hugo. Industriel de père en fils, les usines chalets sont prospères. Tu seras peut-être broyé par le système, mais j'ai trouvé ta compensation. La course automobile, ça te dirait? En attendant que je te cède ma place. Hugo savait sans savoir, accepter sans comprendre. Rien ne résiste à ton père, disait sa mère avec un sourire attendri. Rien ni personne. Et Hugo non plus, par facilité. Mais l'inconscience d'Hugo, sa joie de vivre et sa naïveté, sa légèreté de jeune homme heureux, son faux bonheur d'enfant gâté, il vient de les perdre au bord d'un talus, le long d'une route mouillée, une nuit de novembre. Isabelle a tout emporté, tout dévasté. Hugo est aussi mort qu'elle. La seule chose qui parvienne à pousser dans le désert qui l'entoure aujourd'hui, c'est la haine de son père. Pour ne pas être asphyxié, il faut qu'il s'en aille. Les portes de la morgue claquent avec un bruit lugubre, livrant passage aux hommes des pompes funèbres. Le luxe du cercueil écœure Hugo, qui, pourtant, s'y attendait. Sa mère sanglote, au bord de la crise de nerfs, contre l'épaule de Charles. Il y a longtemps qu'Hugo n'a plus la moindre larme à verser. Il a laissé conduire son père. Il a laissé sa sœur brûler vive. Tous les sanglots du monde n'atténueront en rien sa culpabilité. Drap noir et initial. Le haillon du fourgon se rabat sur les dérisoires couronnes de fleurs. Hugo tient bon. Il suit l'enterrement comme un chemin de croix. Il est Hugo pour quelques instants encore. Et après, il essaiera de vivre. Quand le prétentieux caveau de famille aura pris Isabelle pour toujours. Sous son voile de deuil, le chagrin de sa mère est tragique, authentique et détestable. Elle a jeté des regards désespérés à son fils depuis quelques instants. Elle sait qu'il est au-delà du malheur, muré dans une souffrance épaisse qui l'isole du monde. Mais elle lit à livre ouvert sur ce masque qu'il aurait voulu impénétrable, et, plus que la rancune ou le dégoût, elle y découvre une rupture. Isabelle n'est pas encore sous terre. Hugo n'est déjà plus là. Chapitre 2. Hugo avait 22 ans. Ses valeurs et ses modèles sombrèrent dans l'accident de sa sœur. Sa vie bascula, lui révélant l'absurdité d'un univers dérisoire qu'il rejeta en bloc. Il partit de chez lui, les mains dans les poches, sans avoir prononcé une parole. Cette mort atroce l'avait précipité dans les ténèbres, le laissant démuni et hagard, poursuivi par l'image de la silhouette gesticulant au-delà des flammes. Il lui fallait payer et expier pour cesser de brûler lui-même. Il prit donc les 600 euros que contenait son portefeuille et les enfouit dans la poche de son blue jean. Il décrocha le premier blouson venu, dans sa penderie, saisit du bout des doigts sa carte d'identité et son permis de conduire, laissa délibérément sa carte bleue et son portable, puis claqua la porte de la villa de Saint-Cloud. Rebuté par le soleil qu'il supposait au sud, Hugo prit un train vers le nord. Il agissait sans réfléchir, s'appliquant à ne penser à rien. Lorsqu'il se sentit assez loin de chez lui, il descendit dans une gare dont il ne lut même pas le nom et échoua, au terme de son curieux voyage, dans une petite ville d'une province où il n'avait jamais mis les pieds.